Chers auditeurs de notre radio chrétienne, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu de la fête de l'Ascension. L'Ascension, on peut dire que clôt le récit de la vie terrestre de Jésus et la première période de l'histoire de l'Église. L'évangile de cette fête n'en donne même pas une description discrète. Quelle est la spiritualité de l'Ascension qui rayonne sur nous, sur l'Église? Personnellement, je pense que cette spiritualité, ce cœur de l'Ascension, c'est l'espérance que nous vivons par le baptême déjà réellement dans le monde nouveau où règne le Christ. Cependant, nous ne sommes pas déracinés de ce monde, mais nous avons la possibilité d'y vivre d'une manière nouvelle, en attirant le monde vers la transformation glorieuse à laquelle nous sommes appelés par Dieu. Et ce que nous trouvons dans l'évangile de cette fête, comme la mission donnée par les apôtres, par Jésus aux apôtres. Demandons à Dieu, notre Père et Seigneur, que toutes nos intentions, décisions et actions soient orientées de manière pure vers le service et la gloire de sa divine majesté. Viens, Esprit Saint, et donne-nous la foi en la présence de Jésus au milieu de nous jusqu'à la fin du monde. Esprit Saint, donne-nous d'accomplir les commandements d'annoncer l'Évangile. Illumine nos cœurs et nos esprits pendant cette méditation, afin que nous soyons capables d'écouter et de suivre Dieu. Viens, Esprit Saint. Nous écoutons l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 28, les versets de 16 à 20.
Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge. »
Saint Matthieu conclut sa description de la rencontre de femmes avec le ressuscité par un ordre missionnaire. « Allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Mais cet ordre avait déjà été donné par Jésus lors de la dernière scène au chapitre de saint Matthieu. « Mais quand je me lèverai, je vous précéderai en Galilée, » a dit Jésus. Et la rencontre actuelle avec les ressuscités que nous avons écoutée est l'accomplissement d'annonces antérieures. Dans les récits de Matthieu, la Galilée a une signification symbolique. Alors que Jérusalem a été pour Jésus un lieu de trahison, de rejet, de souffrance et de mort, la Galilée est pour lui un lieu bienveillant. L'ordre d'aller en Galilée est un ordre de séparer la nouvelle communauté de croyants d'Israël. Jésus ressuscité rencontre ses disciples dans la Galilée païenne sur une montagne inconnue, où tous ont accès à lui. C'est là qu'il établit une nouvelle communauté sous la direction de Pierre. La Galilée a une signification particulière pour les disciples de Jésus. L'ordre d'aller en Galilée signifie se souvenir du lieu où ils étaient avec Jésus. Ça leur rappelle l'appel au lac, les sermons sur la montagne, les monts Tabor, la tempête apaisée sur les lacs, la guérison de l'aveugle, la résurrection du jeune homme de Naïn, la multiplication des pains, l'annonce de la passion et de la résurrection, et tant d'autres. Tout cela a été ravivé dans ses préceptes d'aller en Galilée. Le retour à des expériences positives de la vie, à des faits joyeux et porteurs d'espérance, est une fortification intérieure pour les disciples, mais aussi pour chacun de nous. Ces retours éclairent la vie d'une lumière nouvelle. Même les grandes tragédies humaines commencent alors à être relativisées et à prendre une autre dimension. La Galilée, en revanche, elle peut être considérée comme un lieu vide de sens. Elle peut être aussi synonyme d'une province, de zone la plus éloignée de la ville sainte, contaminée par les païens, par une nation qui vit dans les ténèbres. Donc dans ce sens-là, dans cette perspective, aller en Galilée signifie se rendre dans un lieu insignifiant, qui a été pour beaucoup un objet de dérision ou de mépris. Aller en Galilée dans ce sens-là signifie s'occuper de choses insignifiantes qui n'inspirent pas de reconnaissance ou d'applaudissements aux yeux du peuple. Et beaucoup se demandent si cela en vaut la peine. Quelle est ma Galilée? Où Dieu veut me rencontrer? Quels espoirs et attentes il veut raviver dans mon âme, dans mes souvenirs de foi? Suis-je capable de regarder les événements difficiles à la lumière de l'Évangile? La rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée est aussi la remise d'un testament. Un testament exprime la dernière volonté, le dernier souhait d'un mourant. Dans notre tradition, un testament contient généralement des dispositions financières ou patrimoniales. Mais dans la culture orientale, le testament a également une dimension spirituelle. Il contient très souvent des instructions spirituelles et de la sagesse d'une vie. Un tel testament a été laissé par le Maître à ses disciples. Jésus, en partant vers le Père, transmet également son testament, sa dernière volonté. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. La volonté de Jésus, son dernier souhait, est que ses disciples soient ses témoins et les dépositaires de son enseignement. L'expérience de l'ascension nous envoie dans le quotidien de notre vie et de notre travail. Nous devons apporter le ciel là où il y a des ténèbres, où il y a l'enfer, où il y a du vide et de l'insignifiance. C'est très signifiant aussi pour moi que Jésus ne demande pas de faire de saints ou de changer les gens, ou il demande tout simplement de faire de toutes les nations des disciples. Nous n'avons pas une grande mission de faire des saints, de convaincre, de changer le cœur. Nous devons juste inviter chaque personne autour de nous à la suite de Jésus, de venir essayer de voir, l'écouter, faire leur expérience avec les ressuscités. C'est comme ça que nous sommes disciples. Il n'est pas facile d'être un témoin de Jésus aujourd'hui, mais nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Nous sommes soutenus par les saints et les martyrs. Nous sommes soutenus par des témoins contemporains, des personnes à la foi et à l'espérance profonde. Et surtout, Jésus lui-même, ressuscité d'entre les morts par son esprit, est avec nous et il nous guide. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, cet impératif « aller » sonne comme un commandement militaire et montre que la volonté de Jésus est que les disciples n'attendent pas que les foules viennent à eux, mais qu'ils aillent chercher les auditeurs. Car Jésus aussi allait enseigner. Le mot « enseigner » est également à l'impératif. Il s'agit d'une proclamation publique, solennelle, audacieuse, et taillée par des actes et toute une vie. Le contenu de la proclamation de Jésus était la venue du royaume de Dieu. Et les signes de la venue du règne de Dieu étaient la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification de lépreux, l'expulsion de mauvais esprits. C'est là aussi les apôtres devaient les faire, sur la base de ce que Jésus lui-même leur avait communiqué et que l'Esprit Saint allait maintenant leur rappeler et les apprendre. Les mots de Jésus « aller » devient plus pertinent pour ceux qui ne vont plus du tout à la messe ou qui n'y vont que deux fois par an à Noël et à Pâques. Ils sont déjà hors de la portée des formes traditionnelles d'évangélisation. C'est à eux que notre évangélisation doit s'adresser. C'est vers eux que nous devons aller avec l'Évangile. Si nous n'allons pas vers ces égarés, ces sympathisants de l'Église, dans quelques années, ou peut-être c'est déjà le cas, notre pays sera complètement sécularisé et deviendra un pays néo-païen, c'est-à-dire fait de païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela se passe sous nos yeux, et il ne suffit pas de les regarder avec horreur, de les critiquer, et de se cacher dans les communautés fermées, comme dans une forteresse. Je pense que chacun de nous doit et peut commencer à agir, à répondre à cet appel de Jésus « Allez ! Faites, mes disciples !» Il faut commencer à faire les premiers pas. Mais il ne suffit pas d'y aller. Il ne faut pas aller prêcher, proclamer et témoigner. Les paroles doivent être accompagnées d'actes. L'homme d'aujourd'hui, surtout celui qui est éloigné de l'Église et de l'Évangile, ne croit plus aux paroles. Les paroles sont dévalorisées. L'homme d'aujourd'hui n'a pas besoin de maître, mais de témoin. Au témoin, il peut croire. Il croira les maîtres s'ils sont aussi des témoins. La parole doit être prêchée, mais elle doit être soutenue par l'action, soutenue par les témoignages. Comment assumons-nous cette mission d'aller et enseigner? Quel genre de témoin de Jésus je suis? Est-ce que les autres, en me regardant et en regardant ma vie, se rapprochent de Jésus, deviennent plus forts dans la foi et dans l'espérance? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne s'agira plus d'une présence physique à laquelle les disciples étaient habitués, mais d'une présence par le Saint-Esprit agissant. Comment Jésus est-il présent parmi nous aujourd'hui dans son Église? Jésus assure les apôtres de sa présence personnelle auprès d'eux, et c'est pourquoi, malgré les plus grands obstacles et les plus grandes difficultés que l'on puisse rencontrer, son Église poursuivra avec bonheur l'œuvre de salut de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et en effet, il est resté avec nous, réel et vrai, dans l'Eucharistie. Il est possible de s'unir à lui par la Sainte Communion, et les autres sacrements nous permettent également de les rencontrer. Jésus est également présent en tant que vérité dans sa parole. Nous pouvons le recevoir lorsque nous acceptons avec foi la vérité révélée. Comment pouvons-nous bénéficier de sa présence constante au milieu de nous? Comment le rencontrer dans l'Eucharistie, dans les sacrements de réconciliation? Le contact avec sa parole me rapproche-t-il de lui? Est-ce que j'apprends à le connaître à travers cette parole et que je fais l'expérience de sa proximité? Pour les disciples, prier, être dans le temple et louer Dieu était une expérience du ciel dans lequel Jésus est monté. Le ciel s'ouvre sur nous lorsque nous sommes avec Jésus, lorsque nous demeurons dans la prière, dans l'Eucharistie. Bien sûr, il y a des moments où la prière, l'Eucharistie, deviennent fastidieuses, lassantes. Mais nous faisons aussi l'expérience d'une atmosphère différente, de la proximité de Jésus, de la communion, de l'ouverture du ciel. Nous avons cette expérience-là. Nous sentons alors que tout est relatif, secondaire, quand nous touchons le ciel. Ce n'est pas une fuite des problèmes de la vie quotidienne, mais la conscience que ces problèmes ne nous écrasent pas, ne nous détruisent pas. Nous ressentons alors la liberté qui mène à la vraie joie. L'ascension de Jésus libère la joie. Si nous regardons plus souvent le ciel et réalisons que notre patrie s'y trouve, nous découvrirons la joie qui est au fond de notre cœur, déjà présente, et qui à tout instant peut renaître dès que nous expérimentons le ciel d'ici-bas. Et cette joie transformera peu à peu toute notre vie. Suis-je conscient que ma vie est une ascension? Dans quel moment de la vie quotidienne Est-ce que je sens le ciel s'ouvrir sur moi ou en moi? Est-ce que je ressens la joie de me rendre à la maison du Père? Nous t'invitons, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Et nous te confions les désirs qui ont surgi en nous pendant cette prière. Nous te demandons, Jésus, que l'expérience de ta proximité, de ta présence, grandisse continuellement en nous par l'usage des sacrements, de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Jésus, viens avec le don de ton Saint-Esprit et rends-nous capables d'entreprendre la mission de proclamer de manière appropriée ce que nous vivons dans notre relation avec toi. Jésus, conduis-nous au ciel, notre vraie patrie. Amen.